une feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Petit Piment, d'Alain Mabankou, aux éditions du Seuil.
Je vais lire le début du livre de ma mère d'Albert Cohen, un livre qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est le plus grand chant d'amour qu'un écrivain ait écrit à ce jour. Et ce livre ne me quitte jamais, c'est comme une prière. Chaque homme est seul, et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte. Ce n'est pas une raison pour ne pas se consoler ce soir, dans les bruits finissants de la rue, se consoler ce soir avec des mots. Oh, le pauvre perdu qui, devant sa table, se console avec des mots, devant sa table et le téléphone décroché, car il a peur du dehors, et le soir, si le téléphone est décroché, il se sent tout roi et défendu contre les méchants du dehors. Si vite méchant, méchant pour rien. Quel étrange petit bonheur, triste et boitillant, mais doux comme un péché ou une boisson clandestine. Quel bonheur tout de même d'écrire en ce moment, seul dans mon royaume et loin des salauds. Qui sont les salauds? Ce n'est pas moi qui vous le dirai. Je ne veux pas d'histoire avec les gens du dehors. Je ne veux pas qu'on vienne troubler ma fausse paix et m'empêcher d'écrire quelques pages, par dizaines ou centaines, selon que ce cœur de moi qui est mon destin décidera. J'ai résolu notamment de dire à tous les peintres qu'ils ont du génie. Sans ça, ils vous mordent. Et d'une manière générale, je dis à chacun que chacun est charmant. Telles sont mes mœurs diurnes, mais dans mes nuits et mes aubes, je n'en pense pas moins. Albert Cohen, le livre de ma mère.
Alain Mabankou, Petit Piment, que vous publiez à la rentrée littéraire le 20 août aux éditions du Seuil, puise lui aussi dans les ressources de l'enfance.
Je pense que Petit Piment était un livre, effectivement, qui puise aussi dans les ressources de l'enfance. J'ai souvent tendance à le présenter comme le livre de l'extérieur. J'avais eu à publier déjà Lumière de Pointe Noire qui était de l'autofiction, mais là je sentais qu'il y avait aussi la rue, la clameur, l'Afrique qui est en train de se faire dans les ruelles, dans les bourgades, les personnages marginaux. Et puis Petit Piment s'inscrit sous le régime de la fable, mais je dirais plutôt une fable urbaine, une fable contemporaine. J'avais fait de la fable des temps anciens, avec Mémoire de Porc-Épic, un animal qui parlait. Mais ici, c'est cette fable urbaine, quotidienne, de ce petit personnage qui s'appelle Petit Piment, une sorte de Robin des Bois des Tropiques, mais aussi Oliver Twist, je pense, parce que c'est quelqu'un qui s'échappe de l'orphelinat et qui va vivre de petits larcins et qui finalement va devenir un pivot dans la société congolaise. C'est une fable dans le sens où ça dit l'Afrique qui est en train de trébucher, ça dit l'influence à la fois de la religion, du communisme et de la politique dans ces années 70-80 sur les individus. Comment un individu marginalisé par la société va se lever pour prendre une certaine revanche qui pourrait être tragique dans la vie de tout le monde.
Nous allons faire la rencontre en vous écoutant. Nous allons lire les premières pages.
C'est la première fois que je relis. Tout avait débuté à cette époque où, adolescent, je m'interrogeais sur le nom que m'avait attribué Papa Mupelo, le prêtre de l'orphelinat de Luango. Tokumi Sanzambe po Moseya Moyindo Abotami Namboka Yabakoko. Ce long patronyme signifie en lingala « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres et il est encore gravé sur mon acte de naissance ». Papa Mopelo était un personnage à part. Sans doute l'un de ceux qui m'avaient le plus marqué pendant les années que j'avais passées dans cet orphelinat. Haut comme trois pommes, il chaussait des salamandères à grosses semelles, nous les appelions des chaussures à étages, et portait de larges boubous blancs qu'il se procurait auprès des commerçants ouest-africains du grand marché de Pointe-Noire. Il ressemblait alors à un épouvantail de champs de maïs, en particulier au moment où il traversait la cour centrale et que les vents secouaient les fils à eau qui entouraient l'enceinte de l'orphelinat. Chaque week-end, nous attendions son arrivée avec impatience et l'applaudissions dès que nous apercevions sa vieille 4L dont le moteur, disions-nous, souffrait de tuberculose chronique. Le prêtre se débattait pour se garer dans la cour, reprenait 5 à 6 fois sa manœuvre, alors que n'importe quel chauffard se serait parqué au même endroit, les yeux fermés. Ce n'était pas par plaisir qu'il livrait cette bataille grotesque. C'était parce qu'il souhaitait, se justifiait-il, que la tête de la voiture regarde déjà vers la sortie et qu'il n'ait pas à se compliquer l'existence 2 heures plus tard lorsqu'il regagnerait Diosso, la localité où il résidait à 10 kilomètres de Luango. Une fois que nous étions à l'intérieur du local mis à sa disposition par l'institution, juste en face des bâtiments qui nous servaient de salle de classe, nous formions un cercle autour de lui, tandis qu'il nous distribuait des feuillets sur lesquels nous découvrions les paroles de la chanson à apprendre. Un vacarme traversait aussitôt la pièce, car nous avions pour la plupart du temps du mal à nous habituer au vocabulaire précieux de ce lingala tiré des livres écrits par les missionnaires européens et dans lesquels ces derniers avaient recueilli nos croyances, nos légendes, nos contes et nos chants des temps immémoriaux. Nous nous appliquions et, en moins d'un quart d'heure, nous nous sentions à l'aise, modulant nos voix comme le voulait Papa Mopelo qui suggérait aux filles de pousser des youyou, aux garçons de leur répondre par leur tonalité la plus basse pendant que lui-même, les yeux fermés, le sourire aux lèvres, se trémoussait, écartait ses jambes pour les recroiser et les écarter à nouveau. Ses gestes étaient si vite exécutés que nous étions certains qu'il était l'homme le plus rapide de la terre. Le voilà qui transpirait au bout de quelques minutes, essuyait son visage d'un revers de main et, le souffle coupé, la bouche ouverte nous faisait signe « C'est à vous maintenant !» Devant notre hésitation, le prêtre volait à notre secours, liant le geste à la parole. « Allons, allons, ne soyez pas timides, les enfants, je veux que tout le monde s'y mette, remuez vos épaules de haut en bas. Oui, c'est comme ça, très bien. Imaginez maintenant que ces mêmes épaules sont des ailes et que vous vous apprêtez à vous envoler. Voilà !» Hochez simultanément la tête, telle des margouillas surexcités. « Formidable, les enfants, c'est ça la vraie danse des nordistes de ce pays. » Enflammé par ces moments de liesse, où nous pensions que ce serviteur de Dieu n'était pas là pour nous évangéliser, mais pour nous faire oublier les punitions que nous avions subies les jours précédents, nous nous laissions aller, parfois un peu trop, avant de comprendre que tout ne nous était pas permis, que nous n'étions pas dans la fameuse cour du roi Makoko où les batekés festoyaient sans relâche pendant que leur souverain ronflait de jour comme de nuit, bercé par les chants de ses griots. Papa Mopelo nous surveillait donc du coin de l'œil et intervenait dès que nous étions tentés de franchir la ligne rouge. Il n'était pas question, par exemple, que nous nous rapprochions des filles dans l'espoir de les prendre par la taille et de nous coller à elles comme des sangsues. De même, était-il intransigeant à l'égard de ces pensionnaires vicieux tels Bumba Mutaka, Ngekena Sonive et Diambu Dibwiri qui utilisaient de bris de miroir pour apercevoir la couleur des sous-vêtements des filles et se payer par la suite leur tête. Papa Mopelo les rappelait vite à l'ordre. Et attention les enfants, je ne fais pas de ça ici, le péché arrive souvent en blaguant. Pendant plus de 2 heures, nous oublions qui nous étions et où nous nous trouvions. Nos éclats de rire résonnaient jusqu'à l'extérieur de l'orphelinat quand Papa Mopelo habité par la transe, imitait maintenant le saut de la grenouille afin de nous démontrer la fameuse danse des pygmées du Zaïre, son pays d'origine. Une danse bien différente et beaucoup plus technique que celle des nordistes de chez nous, car elle exigeait une souplesse de félin, une rapidité d'écureuil pourchassé par un boa et surtout ce déhanché remarquable au terme duquel le prêtre s'accroupissait puis d'un bond de kangourou se retrouvait sur ses pattes un mètre plus loin. Il se redressait sans cesser de bouger des reins, levait très haut les bras, poussait un cri au fond de sa gorge et s'immobilisait enfin ses gros yeux rouges bien écarquillés sur nous. C'était à ce moment-là que nous devions l'acclamer afin qu'il reprenne une posture moins comique et que chacun de nous s'installe peu à peu sur ses sièges en bambou qui grinçaient au moindre de nos mouvements. Nous étions aux anges, portés par une ambiance que nous commentions le lendemain à la cantine, à la bibliothèque, dans l'aire de jeu, dans la cour de récréation et surtout dans le dortoir où nous répétions ces pas jusqu'à ce que les 6 surveillants de couloir, jaloux de l'influence de l'homme de Dieu sur nous, agitent leurs fouets et nous poussent à nous réfugier dans nos draps. Nous les appelions les surveillants de couloir parce qu'ils se tairaient justement dans les couloirs, nous pistaient et faisaient remonter les informations au premier étage auprès du directeur Dieudonné Ngulmumako. Les plus tenaces de ces surveillants étaient Mpassi, Moutété et Mvumbi, des parents de la ligne maternelle du directeur et qui, de ce fait, agissaient tels de sous-directeurs au point que Dieudonné Ngulmumako devait parfois leur dire de lever le pied. Quant aux 3 autres, Mfumbu Ngulmumako, Bisulu Ngulmumako et Dongo Dongo Ngulmumako, fiers de leur patronyme hérité de la ligne paternelle du directeur, ils prenaient tout le monde de haut alors qu'ils avaient obtenu leur poste par la seule grâce de leur oncle et n'avaient aucune expérience dans l'éducation des enfants qu'ils considéraient comme du bétail. Dès qu'ils s'en allaient, après nous avoir intimidés, quelqu'un d'entre nous lançait un mot marron dans le lingala de Papa Mupelo. Nous sortions de nos lits pour former un petit cercle et reprendre notre chorégraphie, celle-là qui allait nous poursuivre jusque dans nos songes. Il n'était pas surprenant d'entendre au cœur de la nuit des pensionnaires fredonner dans leur sommeil bien mouvementé ces airs d'antan dans la même langue, désuètes de cet homme plein de bonté et qui nous vendait l'espérance au prix le plus abordable parce qu'il était persuadé que sa mission était de sauver les âmes, toutes les âmes de cette institution. Papa Mupelo ne m'avait jamais avoué que c'était lui qui m'avait attribué le nom le plus kilométrique de l'orphelinat de Luango et certainement de la ville, voire du pays. Était-ce parce que c'était ainsi chez ses compatriotes zaïrois où les appellations étaient aussi interminables qu'imprononçables, à commencer par celle de leur propre président, Mobutu Sese Seko Nkuku Gwendo Wazabanga, dont le nom signifiait « le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne l'arrête ». Tout commence par un nom dans Petit Piment, vous savez, peut-être que les problèmes que nous avons dans ce monde commencent toujours par le nom. Le nom a quelque chose de symbolique dans les cultures africaines. On ne donne pas un nom en se ruant sur un calendrier ou bien juste pour le plaisir de la sonorité des noms. Le nom d'un individu doit signifier quelque chose parce que c'est ce nom qui va donner un destin à un enfant. Dans ma tribu, chaque nom a quelque chose. Mon propre nom, Mabankou, n'a pas été donné juste pour le plaisir d'être donné. Il signifie en langue bembe les fièvres. Donc celui qui est né presque avec une fièvre de plus de degrés que les autres enfants. Et dans Petit Piment, avoir le nom de Moïse en lingala qui signifie Mosé, c'est-à-dire que le Moïse noir est enfin né sur la terre des ancêtres, la terre des ancêtres étant l'Afrique, cela veut dire qu'il a un destin. Et s'il a un destin, ben ce destin va mélanger aussi bien le bonheur que la tragédie. Dans la Bible, Moïse a dû s'attaquer à quelqu'un qui s'en prenait au peuple hébreu, au prince justement d'assassiner pour fuir vers la montagne et recevoir une certaine bénédiction de Dieu qui lui demande d'aller sauver le peuple d'Israël. Et Petit Piment, dans ce roman, pense que lui aussi a cette mission de sauver la ville de Pointe-Noire. Et ce roman est peut-être aussi son itinéraire. Il explique comment il va procéder. Comme Moïse a libéré le peuple d'Israël, eh bien, lui, il va libérer le peuple de Pointe-Noire, une petite capitale économique au Congo-Brazzaville. Et si ce destin devait s'accompagner d'une musique, cette musique serait celle de mon aîné, de mon grand frère africain, Manu Dibango, et ça serait Saul Makossa. C'était Manu Dibango avec son Saul Makossa. C'est une musique que j'écoute toujours parce qu'elle me rappelle cette époque des années 70, de mon roman Petit Piment. C'est la musique qui me rappelle aussi qu'en 1972, lors de la sortie du titre, le Congo-Brazzaville avait gagné la Coupe des Nations d'Afrique au Cameroun et c'était une liesse. Et je pense que cette musique peut accompagner les personnages de Petit Piment.
Merci Alain Mavoncou.
Merci.
C'était Alain Mabankou, qui nous présentait son roman « Petit piment » qui paraîtra aux éditions du Seuil. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Manuel Couturier.